Je pense qu'un de nos souhaits, par ce petit survol rapide, était de vous encourager à lire des livres de spiritualité d'une autre époque, d'une autre tradition, hein, de vous initier à ces autres spiritualités, parce que je pense qu'on le voit, c'était assez clair cette année, que chaque spiritualité est teintée, colorée par la culture ambiante de l'époque. Chaque spiritualité. La leur était et la nôtre est aussi. Et parfois, je trouve que c'est en nous plongeant dans une autre époque, même si c'est toujours difficile de reprendre des écrits lointains, mais c'est en nous plongeant dans une spiritualité un peu plus loin, des écrits, des gens plus qui nous ont précédés, c'est là où on peut voir peut-être plus la coloration de nos propres époques au niveau culturel. Parce qu'on se rend compte des choses qui ne nous viendraient jamais à l'idée, qui ne collent pas du tout avec notre culture, faisaient partie de leur spiritualité. Donc moi je trouve que c'est important, j'ai toujours un livre plus ancien à lire sur ma table de nuit, hein, pas que des gens qui créent au présent, et ça me garde à mon avis dans une certaine lucidité sur ma propre culture. Donc, pour cette dernière session, nous aimerions prendre un moment assez court sur les courants de spiritualité dans le milieu évangélique. Pas que dans le milieu évangélique, ces courants existent dans toutes les traditions, hein. Chrétienne, que ce soit l'Église catholique ou d'autres traditions. La question était comment faire. Bon, on voulait quand même résumer un peu, parce que je pense que c'était clair cette année qu'il n'y a pas de taille unique. Il n'y a pas qu'une spiritualité pour tout le monde. Il y a des courants différents, avec des accents différents. Il y a des perles différentes, de tailles différentes, de couleurs différentes. Chaque perle trouve ses racines dans la Bible, mais chaque perle a aussi certains pièges ou certains dangers qui sont attachés presque à ses forces. Et j'ai presque envie de reprendre les paroles de ce matin, retenons ce qui est bien et évitons, abstenons à tomber dans les pièges de chacun. Donc pour faire ce petit survol des courants de spiritualité dans le milieu évangélique, Louis a un très bon article qui est là sur la typologie des spiritualités évangéliques. C'est dans le livre qui est sorti du séminaire de Vaud, mais quel est le nom du livre?
Je m'en rappelle plus. La spiritualité évangélique, c'est le
premier tome. Oui, c'est ça. Donc je ne voulais pas refaire ce qu'il a fait, parce qu'il a fait très bien, je ne peux pas le faire mieux. Donc je voulais faire un peu différemment. Et j'ai eu l'idée, en lisant le livre de Richard Foster, je ne sais pas si vous connaissez, un Quaker, qui a écrit un livre qui est traduit d'anglais en français sur la prière, et aussi il a fait celui, l'éloge de la discipline chrétienne ou spirituelle, ou éloge de la discipline. Deux bons livres, et dans cet autre livre, un autre livre qui n'est pas traduit en français, qui s'appelle Streams of Living Water, il parle de cinq courants. Donc j'ai pris un peu son schéma et après j'ai fait ma propre sauce béchamel, mais j'ai pris quand même ses titres. Et donc j'aimerais parler de cinq courants qui se trouvent dans le monde évangélique. Et je vais parler des accents. Et je vais faire d'une manière assez courte et schématique, hein. Mais je vais parler des accents et aussi des risques, des pièges. Et quand je parle des risques et des pièges, ça ne veut pas dire que tout le monde dans ce courant-là est tombé dans ces pièges. Je ne veux pas du tout dire ça, mais c'est simplement, c'est des risques qui guettent sur tout ce courant. C'est tout, il faut être quand même lucide. Donc je vais simplement les nommer. Premièrement, c'est le courant contemplatif. Courant contemplatif, c'est peut-être le courant le moins fréquent dans le monde évangélique. Je vais peut-être commencer au plus, et puis aller au plus, bon, non, peut-être pas. Mais c'est peu fréquent, mais ça existe quand même. J'en suis témoin, ça existe. Et je trouve que même peut-être c'est en train de peut-être trouver peut-être une place dans le monde évangélique. Je trouve que c'est en train de prendre un peu plus de l'ampleur parce que je vois des gens qui ont soif d'intériorité, soif de silence, soif de... Et pour nos contemporains, souvent non chrétiens, ils vont vers des spiritualités orientales. Et je pense que nous avons dans la spiritualité chrétienne tout un courant de contemplation qu'il faut revivifier et retrouver. Donc, nous avons vu ces courants dans Saint Jean de la Croix, Saint Thérèse d'Avila, les Pères du désert, etc. Et l'accent est donc placé dans ce courant sur ce regard attentif, amoureux sur Dieu, ce regard amoureux, attentif sur Dieu, qui nous aime. L'accent est placé sur le silence, la solitude, la prière sans parole, d'être simplement présent à Dieu, les mains ouvertes pour attendre tout de lui. C'est aussi une recherche d'une union avec Dieu, une actualisation de cette union qui est beaucoup plus intuitive et directe. Et qui va résulter dans une transformation. C'est un peu le texte de 2 Corinthiens 3,18. Nous contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés hein, d'image en image. Ce courant nous donne des perles, dans le sens que ce courant nous rappelle que la spiritualité ne se résume pas que dans des formations intellectuelles, pas que. Dans une formation intellectuelle que Dieu dépasse toujours nos compréhensions. Dieu, il y a toujours ce mystère qu'on ne va pas pouvoir mettre dans une petite boîte. Ce courant nous rappelle aussi l'importance du silence dans l'écoute de Dieu pour discerner l'action de Dieu, d'être attentif, d'être à l'écoute et le silence est très important. Ce courant nous rappelle aussi que la prière n'est pas qu'un flot de paroles, un bavardage sur nous et sur Dieu et sur les autres. La prière peut être aussi sans parole, silencieux. Les risques qui guettent ce courant, et comme j'ai dit, je critique pas parce que chacun a des risques. Mais les risques ou les pièges potentiels, je dirais, c'est le danger est de opposer contemplation et action, qui n'est pas du tout nécessaire, parce que c'est la contemplation qui nourrit l'action, normalement. Mais on peut parfois tomber dans cet aspect d'opposition. Que la vie contemplative s'oppose à la vie active. Et c'est une piège, c'est un piège. Piège aussi peut-être d'avoir une fuite devant les responsabilités du monde, hein, de ne pas être active dans le monde. Dans un sens, c'est un peu une spiritualité tendance Casper le fantôme. Hein. C'est un peu désincarné. C'est moi Dieu et je suis bien dans mes moments seuls en prière avec Dieu et puis bon, à tout le reste, je m'en occupe pas. c'est quand même ce danger qui est là. Ou peut-être aussi le danger de négliger l'importance de la communauté. Surtout si on ne vit pas dans une communauté de sœurs et on est toute seule, ça peut virer assez vite ermite, où on néglige l'importance des uns des autres, l'importance de la communauté. Voilà les pièges des risques.